Jean 15, 1 à 8. Moi, je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Et le titre de mon message ce matin sera « Le fruit du vrai chrétien ». C'est vraiment bon pour Fanny et moi d'être parmi vous ce matin, et ça fait déjà bientôt un an que nous avons déménagé à Bordeaux, et on peut dire que vous nous manquez. Et Bordeaux, on apprend à apprécier cette région et on la trouve vraiment magnifique. Et quelque chose qui la caractérise, c'est que c'est une région fière du vin qu'elle produit, non seulement pour la France, mais qu'elle exporte aussi à l'étranger. Parfois, dans l'étranger, quand on dit Bordeaux, c'est juste pour dire boire du bon vin. Et même pas la ville de Bordeaux en France. Même à Toulouse, je suis sûr que vous aimez boire de temps en temps un bon verre de Bordeaux, et pas de vin rouge, vous dites un bon verre de Bordeaux. Et pour commencer ce message, on va peut-être jouer à question pour un champion ensemble. Alors vous pouvez tous vous préparer avec votre petit bouton là. Est-ce que vous savez combien de producteurs de vin il y a dans la région de Bordeaux? Alors vous pouvez me dire des chiffres comme ça, oui? 8000. Qui dit plus, qui dit moins? 150, 1500, eh ben aucun de tout ça, 14 000 rien qu'à Bordeaux. 14 000, eh ben sur des centaines de milliers dans le monde. Incroyable, n'est-ce pas? Allez, on va continuer à question pour un champion cette fois-ci. Combien de chrétiens, combien de personnes se disent chrétiens dans le monde? Alors, combien? Un chiffre? 2 milliards. On est 6,5 milliards dans le monde, c'est ça, ouais? 2 milliards. Pas d'autres chiffres? On est 7 milliards dans le monde, donc 2 milliards, oui. Eh bien, c'est à peu près ça. Une personne sur trois dans le monde se dit chrétien. Environ, donc, 2 milliards. Et bon, sur ces personnes, combien se disent protestantes? Je ne vais pas vous faire réfléchir plus longtemps. 356 millions. 356 millions de personnes officiellement rattachées à une église. Et la question de ce matin, c'est est-ce qu'il suffit de dire que je suis chrétien pour être un chrétien? Moi qui suis devant vous ce matin, Nathanaël, est-ce que je suis un chrétien? Est-ce que je suis chrétien? Suis-je un petit Christ? Et vous là, vous qui m'écoutez, chacun d'entre vous, est-ce que vous êtes chrétien? On est à Toulouse, on est dans une église dite protestante, évangélique, en plus membre de l'Alliance chrétienne et missionnaire. En gros, pourquoi nous sommes là? Parce que nous sommes les meilleurs des meilleurs. Et ça, c'est pour imiter un de mes acteurs favoris, Will Smith, dans son film Men in Black. Mais pensez-vous vraiment que Dieu regarde si je suis chrétien, protestant, évangélique, charismatique, baptiste, darbiste ou méthodiste, et que je fasse partie de l'Alliance chrétienne missionnaire en France, ou dans cette super église de Toulouse, pour dire, bah oui, Nathanaël, tu es bien chrétien? Ou pensez-vous que Dieu va s'attacher plutôt à regarder droit dans mon cœur et dire, oui, cette personne-là, cet enfant-là, il est bien de moi, il est chrétien? Eh bien, ce matin, j'aimerais que, dans le passage qu'on a lu, on regarde vraiment comment on peut reconnaître un chrétien. Notre vie porte-t-elle du fruit pour le Seigneur ? En Jésus, je porte du fruit. Pour commencer, l'évangile de Jean, vous l'étudiez, donc vous savez exactement quel est l'objectif poursuivi par l'apôtre, par ce disciple de Jésus, lors de cette rédaction de cet évangile. Et bah, je vous demande de me le rappeler, quel est l'objectif ? Amen. Merci, Fons. Ça, c'est Jean 20, verset 31. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et votre leitmotiv, cette année, ça a été connaître Jésus et le faire connaître. Et c'est ce que Jean voulait faire. Il voulait que le monde connaisse ce qui était Jésus et ce qu'il avait fait. Tout ce qui est écrit dans l'évangile de Jean nous rappelle que Jésus est Dieu. Et que ceux qui l'acceptent comme leur sauveur personnel ont cette vie éternelle. Et voyons comment ce passage contribue à comprendre cela. Tout d'abord, Jésus, il est totalement dépendant de Dieu. Le premier verset, « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » Voilà donc l'un des sept « je suis » de l'évangile que Jean nous rapporte. Alors, qu'est-ce que le cep ? Un champignon ? Ah, je vois que ça fait rire tout le monde, parce que ça, ce serait une faute de français. Non, cep, C-E-P, et pas C accent grave P-E, c'est la partie centrale du plan de la vigne. Alors, pourquoi le vrai cep ? Jésus dit, moi, je suis le vrai cep. Est-ce qu'il y en a un faux ? Eh bien, oui. On est à un moment où Jésus vient de subir plusieurs attaques des pharisiens. Et lorsqu'il dit, moi, je suis le vrai cep, c'est parce que dans tout l'Ancien Testament, à chaque fois qu'a été utilisée l'image de la vigne, on parlait du peuple juif, du peuple d'Israël. Et souvent, cette image était utilisée pour dire au peuple élu qu'il ne portait pas de fruits ou qu'il en portait des fruits qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, qui ne recherchaient pas la gloire du Père. Et c'est pour cela que Jésus dit « Je suis le vrai cep » par rapport aux attaques des pharisiens. Il leur sous-entend « Vous êtes le faux cep, vous ne portez pas les fruits pour la gloire du Seigneur ». Jésus dit qu'il est le vrai cep et son Père, Dieu, est le vigneron. Le cep, il dépend totalement de ce que le vigneron décide. Son emplacement, qu'il soit dans la rangée, sur une colline, dans la vallée. Comment tailler le cep ? À quel moment le tailler ? La direction dans laquelle il va pouvoir grandir ? Et qu'est-ce que ça peut nous apprendre ? Eh bien que Jésus, il est totalement dépendant de Dieu. Totalement soumis au Seigneur. Et heureusement pour nous, car nous ne serions pas ensemble ce matin, si lui-même n'avait été soumis jusqu'à mourir à la croix pour nous. Philippiens 2, verset 8. Mon Père est le vigneron. Est-ce que vous avez déjà visité un château ou un vignoble ? Ah oui ? Alors je vois quelques noms parfois. Eh bien sinon, Fanny et moi aurons le plaisir de vous accueillir à la maison à Bordeaux. Ouais, j'ai pas dit qu'on habitait un château. Hein. Mais on aura le plaisir de vous accueillir, d'aller vous en faire visiter un. Avec Fanny, actuellement, on en a déjà visité trois. Et à chaque fois vraiment, qu'on a pu avoir l'occasion de discuter avec un vigneron, nous avons discerné ceci. La passion. Lorsque le vigneron nous emmène dans sa vigne, qu'il traverse ses champs, il aime regarder ce qui lui appartient, toucher la feuille de la vigne, prendre la grappe, hop, détacher un petit bout de raisin, sentir, le goûter et dire tellement d'amour dans son métier. C'est sa vie, sa passion. Et quand il prend ce grain, eh ben, il veut tester quelque chose. Le taux de sucre, le degré de maturité, voir s'il n'y a pas de maladie, pour savoir quand est-ce qu'il faut guérir, ou est-ce qu'il faut prévenir en fonction du temps, etc. Quel sera le meilleur moment pour récolter, pour vendanger ? La vendange, c'est toute une année de travail, c'est le résultat de toute une année de travail. Et quand il s'agit d'une jeune vigne, donc quand vous avez planté, il faut attendre 3 à 4 ans avant qu'elle ne produise du fruit. 3 à 4 ans avant qu'elle ne produise du fruit. Et bien, de façon similaire, Jésus, lui, il a été engendré, puis il a été bébé, enfant, il a grandi, devenu adulte, et il a appris à obéir, à se soumettre en tout à Dieu. Il a même été tenté pendant son ministère. Et tout cela, ça a été fait dans la souffrance. Mais quel était l'objectif ? Mourir à la croix, faire la volonté de Dieu. Jésus, il a totalement dépendu de la volonté du Seigneur. Tout comme le cep est totalement dépendant du vigneron. C'est ce que vous pouvez relire dans les évangiles dits synoptiques en Matthieu 26, 39, Marc 14, 36 ou Luc 22, 42. Jésus est totalement dépendant de Dieu. Mais savez-vous pourquoi les vignerons du monde entier taillent leurs vignes ? Eh bien, ce passage nous l'apprend. Les sarments qui produisent du fruit dépendent du cep et on va les couper. Les vignerons choisissent à chaque fois rigoureusement l'endroit où ils doivent tailler. Et quel est leur secret ? Eh bien, ils regardent là où il y a le plus de fruits. Et ils taillent. Parce que s'il y a beaucoup de fruits, c'est que le sarment se nourrit déjà abondamment de la sève qui coule depuis le cep. C'est une action qui vient du sarment. Le sarment doit être profondément attaché au cep. Couper à cet endroit, on pourrait se dire que c'est une erreur, parce qu'il y a déjà tellement de fruits. Et non, couper à cet endroit invite le sarment à se nourrir encore plus de cette sève salvatrice qui va cicatriser, qui va guérir le sarment et lui permettre de porter encore plus de fruits. Et également, des fruits qui ont une teneur en sucre meilleure, plus concentrée. Il y a donc deux résultats au fait de couper dans la vigne. Un, porter plus de fruits. Deux, porter des fruits qui sont encore meilleurs que ceux d'avant. Et comme on l'a vu précédemment, les sarments les plus jeunes sont coupés encore plus courts, parce que le vigneron va privilégier les années à venir plutôt que l'année en cours. Les jeunes sarments ont besoin de s'attacher davantage au cep, y être enracinés en profondeur. Moi je suis le cep, vous les sarments. Que pouvons-nous retirer de cette image si parlante à l'époque de Jésus et que nous apprenons à redécouvrir ensemble ce matin? Eh bien, que le chrétien qui porte du fruit dépend totalement de Jésus. Eh oui, en tant que chrétien, chrétienne, petite Christ, je dois être profondément attaché à Jésus. Je dois dépendre totalement de Jésus. Et ça, c'est le premier point. Totalement. Ça ne veut pas dire une toute petite partie. Non, c'est complètement. Moi, mon corps, ma vie, ma force, ma pensée, mon âme, tout doit glorifier le Seigneur. Et pour parler de moi, ça a vraiment pris énormément de temps. Et je suis encore dans ce processus. On est tous dans ce processus. Deuxième point, Dieu, s'il voit que je porte du fruit, parce que je suis attaché à Jésus, eh bien, il va me tailler. Il va m'émonder. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Nos vies sont bien imparfaites. Il y a toujours quelque chose à enlever, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et pour moi, la plus grosse chose à enlever, et c'est chaque jour, c'est mon orgueil. Et je peux vous dire que c'est super, super dur. J'ai eu la joie d'écouter le témoignage de Fanz à la réunion de communauté fraternelle. Et je me suis un peu reconnu là-dedans, parce que depuis tout petit, j'ai toujours été mis en avant par mes parents, être un modèle pour mes frères et sœurs, etc. J'ai toujours été encouragé à être et à rester le meilleur en sport, le meilleur en musique, le meilleur à l'école. Et Dieu, Et Dieu m'a fait passer par les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. Et là, je peux vous dire, et je pense qu'il y en a qui sont passés par là aussi, ça a été une sacrée grosse claque. La première de ma vie. Mais c'est en ça que j'ai pu apprendre à dépendre totalement de lui pour réussir aux examens. Plutôt que de compter sur mes propres forces, sur moi-même, sur mes capacités à comprendre les mathématiques ou la physique. Et aujourd'hui encore, ce passage nous apprend que Dieu veut enlever les mauvaises branches de nos vies. L'orgueil, la jalousie, l'amertume, le manque d'amour, le manque de joie, le manque de paix, le manque de sagesse, de douceur. Et j'en passe. Pourquoi ? Afin que nous portions non seulement du fruit, mais que nous portions des fruits meilleurs et plus de fruits qu'auparavant. Et vous savez que les vignerons, pour couper les grosses branches, ils peuvent pas y aller à la main comme ça. Ça fait trop mal, ils n'y arrivent pas. Et bien, ils ont un énorme sécateur électrique avec une batterie dans le dos et ils coupent les branches les plus vigoureuses au sécateur électrique. Et donc, j'imagine que si j'étais ce sarment, ça ferait super mal que Dieu coupe la plus grosse branche, celle dont je suis le plus fier. Mais oui, ça fait mal et c'est comme ça. Mais le but est là. Quand Dieu nous émonde, l'objectif est grand derrière. Il nous émonde pour que nous portions encore plus de fruits, que nous nous attachions encore plus à Jésus. Le sarment taillé, c'est un sarment qui se nourrissait déjà profondément à la source. Eh bien, Dieu, il attend encore plus de nous. Et nous l'avons déjà vu ensemble, mais lorsque le sarment est émondé, la logique veut que nous allions encore chercher plus profondément la sève, que nous en nourrissions afin de cicatriser, panser toutes ces blessures, guérir au plus vite et reporter du fruit pour Dieu. Mais cela demande du temps. Du temps, et oui, du temps. Quand le vigneron coupe, c'est pour l'année suivante que ça marche. Un chrétien se reconnaît donc aux fruits qu'il porte. Les fruits de l'esprit, Galates 5. Je ne vais pas vous les reciter. Si ? Ah. Alors, on a commencé par la bonté là-bas. On ne va pas demander au pasteur, c'est la triche. La patience, l'amour, la bienveillance, la joie, la paix, la patience, la douceur et la maîtrise de soi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également l'obéissance à la parole de Dieu, cette parole qui est Jésus. Le chrétien ne cesse de se nourrir de Jésus et tente de lui ressembler. Le fruit porté, c'est donc également de faire des disciples. Parce que ça, c'est le dernier commandement que Jésus nous a donné avant de monter au ciel. Faire des disciples. Et dans la suite du passage, Jésus insiste sur l'amour partagé entre nous. Comme lui nous a aimé le premier. C'est ce qu'il nous rappelle en Jean 13, 34 à 35, qui précédait le passage. Ça, c'est aussi un fruit qui doit se voir. Est-ce qu'on accueille bien les gens qui arrivent et qu'on ne connaît pas ? Est-ce que nous montrons que nous nous aimons les uns les autres, dans le service pour les autres ? Et Dieu va faire passer les chrétiens par des épreuves. Et ces épreuves, elles font évidemment souffrir. Mais le résultat attendu, il est là. Si le chrétien persévère, il surmonte l'épreuve et en ressort grandi. Et il va faire profiter de son expérience aux autres par l'amour. Et va porter plus de fruits. Versets 2 et 5, « Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Et tout sarment qui porte du fruit, Dieu, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Demeurer. Est-ce que vous connaissez les différentes définitions de demeurer ? Eh bien, il y en a trois. La première signifie « habiter », »,« résider ». Par exemple, pour Fanny et moi, nous demeurons à Bordeaux depuis janvier. Ça veut dire que pour nous, en ce qui nous concerne, demeurer en Jésus, c'est habiter en lui. Comme lui habite en nous. En Jean 14, verset 23, que vous verrez certainement dans la poursuite de votre formation. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. La seconde définition de demeurer signifie rester. Par exemple, je demeure à cette place, je reste ici. Je dois donc rester en Jésus, tout comme lui reste en moi. Jésus, lui, ne nous abandonne jamais. Il est toujours présent, prêt à répondre à nos besoins. Et nous, de notre côté, restons-nous en lui? La troisième définition de demeurer signifie persévérer. Par exemple, malgré les persécutions, il est demeuré ferme dans sa foi. Sommes-nous prêts à persévérer avec Christ jusqu'à la fin, afin de porter du fruit? Quand nous sommes confrontés dans notre vie de tous les jours, par exemple, à un manque d'amour, à du mépris, que ce soit au boulot, dans notre famille, ou même à l'église, ça arrive. Si nous comptons sur nous-mêmes, la première réaction que nous aurons, elle est instinctive. Ce sera soit de la violence, réagir avec haine, colère, ou alors en silence, en refoulant notre haine en nous, la gardant, et ça va pourrir. Une haine exprimée, une haine refoulée, ça c'est la réaction instinctive. Mais si nous tirons notre force de Jésus, du cep, alors nous sommes prêts à pardonner rapidement, à être compréhensifs, à entourer ceux qui nous ont fait du mal. Finalement, nous sommes prêts à aimer. Et c'est Jésus seulement qui permet cela. Lorsque nous ouvrons les vannes du Saint-Esprit, afin que lui se répande pleinement en nous pour nous cicatriser, nous guérir et nous faire aller plus loin avec lui et avec les autres. Ouvrir les vannes, c'est donc laisser la sève couler en nous. Demeurons-nous en Jésus? Ok. Alors laissons couler le Saint-Esprit en nous, ne l'empêchons pas. Et tout comme la sève nourrit le fruit, lui donne sa saveur, lui permet de grandir et de mûrir, laissons le Saint-Esprit nous nourrir en lisant la parole, en priant. Laissons-le nous faire grandir, mûrir en Christ et être la saveur tant attendue par le monde qui nous entoure. Parce que Christ se verra en nous. En Jésus, je porte du fruit. Sans Jésus, je suis sans vie. Et c'est la deuxième partie de ce matin. Comment ne pas porter de fruit? Est-ce possible? Eh bien oui. Les sarments qui ne portent pas de fruits sont vite repérés par le vigneron. Ils sont d'une couleur différente, fade. Et surtout, eh bien, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de raisin. Et tout arbre se reconnaît aux fruits qu'il porte. Matthieu 7, verset 15 à 21. Fin du verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui le dit. Si nous faisons donc des choses sans Dieu, elles sont forcément destinées à ne pas porter un fruit qui dure. Toute œuvre humaine, aussi pleine de bonnes intentions qu'elle soit, est vouée à l'échec. Car il n'y a qu'avec Dieu que nous pouvons réussir. Il nous est encore rappelé dans ce verset l'importance de la dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Jésus dépend totalement de Dieu, je dépends totalement de Jésus. Et alors, nous aurons l'assurance de porter beaucoup de fruits si nous demeurons en lui. Attention, pas un fruit, pas un petit peu, beaucoup de fruits. Mais voyons-nous tous les fruits que nous portons? Que disent les gens de nous? Si nous disons que nous sommes chrétiens, eh bien, cela doit se voir. Nous devons le vivre. Les gens qui nous entourent doivent pouvoir nous dire, sans même nous le demander, « Mais tu ne serais pas chrétien ?» À l'inverse, si nous allons vers les autres et leur disons « Hey, tu sais, je suis chrétien !» et que ça ne se voit pas, eh bien, aujourd'hui, et à chaque fois que nous disons ça, nous sommes des menteurs, des hypocrites. Un jour, mon responsable du groupe biblique universitaire, pour ceux qui l'ont connu, il s'appelait Jonathan Spencer, nous a dit lors d'une rencontre interfac, « Regardez votre vie un an en arrière. Regardez-la aujourd'hui. Voyez-vous une différence ?» S'il n'y a pas de différence, posez-vous la bonne question. Avez-vous évolué pendant un an? Avez-vous porté du fruit pour le Seigneur? Je peux vous dire que ça m'a fait un sacré choc. Parce que c'est un moment auquel je revenais vers le Seigneur. Et en regardant ma vie derrière moi, il n'y avait rien. Enfin, cette année, il n'y avait rien. L'année derrière, il n'y avait rien. C'était une phrase pleine de bon sens, pleine de vérité, qui m'a permis de revenir encore plus sur le bon chemin. Et on sait tous que le cycle des saisons, il dure un an. Il y a bien l'automne dans lequel nous sommes, l'hiver, le printemps, l'été, et re-l'automne. Et il est nécessaire que l'arbre, la vigne, elle passe par ces saisons afin de produire le fruit si attendu. Alors ce matin, je vous invite pendant juste quelques secondes à réfléchir au bout d'un an. Que s'est-il passé dans nos vies? Avons-nous porté du fruit pour le Seigneur? Prenons juste quelques secondes pour cela. Et si je n'ai pas porté de fruit, pourquoi? Étais-je attaché à la personne de Christ ou au monde? Est-ce que je me soucie de travailler pour Dieu ou pour moi-même? Ai-je fait avancer le règne de Jésus autour de moi ou l'ai-je laissé en plan? Si je n'ai pas porté de fruits, eh bien ce passage nous apprend que c'est parce que je ne me nourrissais pas de la parole, je n'étais pas dépendant de Jésus. Le sarment, s'il ne demeure sur le cep, ne peut porter de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Versets 4 et 5. Et certains pourraient me dire... Bah, écoute, Nathanaël, j'aime bien ce que tu dis, mais chaque jour, j'ai lu ma Bible. Je suis même allé à la réunion de prière chaque mardi. J'ai participé à des rassemblements chrétiens, à de l'évangélisation autour de moi. Mais alors, si je n'ai pas porté de fruits, où est le problème? Est-ce que j'ai mis en pratique ce que j'ai appris? L'ai-je appris ou ne l'ai-je que lu? Est-ce que ce qui est entré là est ressorti là? Ou est-ce que c'est entré là et ça a transformé ça? Mon cœur, est-ce que la parole de Dieu a transformé ma vie chaque jour? Me suis-je laissé renouveler, régénérer, nourri par la sève du Saint-Esprit? Qu'en est-il? Et que se passe-t-il si je ne porte pas de fruits? Eh bien, les sarments morts sont jetés au feu. Verset 2, verset 6, « Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, Dieu le retranche. » Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ça, c'est du violent. Ça, c'est violent, brûler. Si je ne porte pas de fruits, tout simplement, je montre à tout le monde, que ce soit dans l'église ou ailleurs, que je n'appartiens pas à Christ. Je suis donc un figurant, un comédien, un imposteur. Oui, je viens à l'église. Oui, je viens à une réunion, au rassemblement chrétien. Mais non, dans ma vie de tous les jours, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas dans mon comportement. Je reste méchant, menteur, je réagis avec violence, je suis hypocrite pendant la semaine. Et hop, dès que je viens aux petites réunions, ben, je deviens le parfait petit chrétien. Que tout le monde admire. Oh, il prie bien. Oh, il enseigne bien. Et bien sûr que nous sommes tous imparfaits. Et Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Mais le fruit doit se voir. Nous devons laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, ne pas le refuser. Si j'ai encore le cœur rempli d'amertume, de colère, si je ressasse sans cesse des rancunes vis-à-vis de ceux qui ont pu me faire du tort, qui m'ont fait du mal, eh bien alors je sèche. Et quand le bois sèche, il durcit, tout comme notre cœur, s'il ne se remplit de la grâce de Dieu. Cette grâce remplie d'amour qui peut tout, qui pardonne tout. Si aujourd'hui, dans cette assemblée, il y a encore quelqu'un qui a de l'amertume ou une blessure qu'il a refusé de laisser guérir, alors cette personne deviendra un sarment qui sèche, qui meurt et qui va aller droit en enfer parce qu'elle n'a pas accepté Jésus pour qu'il fasse l'œuvre en lui. Et si c'est le cas ce matin, à la fin du culte, le pasteur et le collège d'anciens, donc Pierre et Samuel, seront présents pour prier pour vous, avec ceux qui le veulent. Le sarment mort, il était bien rattaché au cep. C'est quelqu'un qui a connu Jésus, qui a connu sa grâce, mais qui ne l'a vraiment jamais accepté en lui, qui ne s'est pas nourri pour porter du fruit. C'est quelqu'un qui a abandonné ce combat d'aller avec Jésus, qui a refusé parfois cette grâce, mais qui aime venir parce que c'est chouette d'être ensemble. Mais non, il n'a jamais accepté la grâce. C'est une personne qui a entendu parler de Jésus, qui assiste au culte tous les dimanches, mais qui ne porte pas de fruits, parce qu'on ne voit pas les changements en elle. Il y a des contradictions entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Si nous sommes une nouvelle créature, la Bible nous l'apprend, nous avons une nouvelle nature. Par rapport à notre ancienne vie, notre entourage doit pouvoir dire « Mais je ne te reconnais pas. T'as changé. Comment est-ce possible ?» Et nous de répondre avec joie « Mais écoute, j'ai une super nouvelle à t'apprendre. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça en nous. » Et je pense que c'est la joie qu'on aura d'écouter les témoignages cet après-midi, là, de ce que Jésus a pu faire pour ceux qui rejoignent la grande famille de Jésus-Christ. Celui ou celle donc, qui ne porte pas de fruits, à la fin, il a le même destin que ceux qui ne croient pas en Jésus. Le jugement de Dieu va s'exercer sur elle, et toute la colère divine face au péché. C'est l'enfer, l'endroit où elle va passer l'éternité. Alors ce matin, n'endurcissons pas nos cœurs. N'attendons pas pour pardonner, pour nous pardonner entre nous, pour aimer et pour vivre dans la vérité. Dieu est patient envers nous. Obéissons-lui lorsqu'il nous demande de nous repentir, de confesser nos péchés, de laisser le Saint-Esprit nous envahir pour faire son œuvre. Demandons pardon en premier aux autres. Et pardonnons en premier aussi, avant les autres. Et pour en revenir à cette image de la vigne, vous savez, couper les sarments secs, c'est la première étape que fait le vigneron. Il faut éliminer le bois mort pour favoriser la croissance des autres bons sarments. Le vigneron le sait, et finalement, il le fait de façon chirurgicale. Dès que je ne porte pas de fruits, là où je suis, ou que je ne veux pas en porter finalement, eh bien, au fur et à mesure, je m'éloigne de ce que voudrait Dieu pour moi. Et quel est le résultat? Eh bien, j'ai une mauvaise influence sur ceux qui m'entourent, mes collègues, ma famille, mes frères et sœurs à l'église. Et quel est le résultat final? Finalement, je n'ai pas accepté la grâce. Et je suis jeté au feu. Je brûle en enfer. Si je ne porte pas de fruits, je montre que je ne suis pas un vrai chrétien. Je peux dire que je suis chrétien, mais je ne suis pas un vrai chrétien si je ne porte pas de fruits. C'est-à-dire que je n'appartiens pas à Christ, que je ne me nourris pas de lui, et que mon sort, comme tous ceux qui n'acceptent pas la grâce de Jésus, c'est d'aller en enfer, loin de la présence de Dieu pour l'éternité. Mort du sarment, mort éternelle. Si nous croyons aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui nous attend après la mort et que Dieu existe, voulons-nous vraiment passer notre éternité loin de la présence d'un Dieu qui nous a aimés le premier, d'un Dieu qui veut tout pour nous et notre bonheur? Voulons-nous passer notre vie sans Jésus, en le laissant de côté, alors que nous savons pertinemment tout ce qu'il a à nous offrir, tous les fruits qu'il veut que nous portions? Je vous en supplie ce matin. Laissez couler en vous ce Saint-Esprit, le Saint-Esprit, afin de guérir et porter du fruit, encore plus de fruits. Laissons la vie de Jésus de couler en nous. Demeurons en Jésus. Habitez en Jésus. Restez en Jésus. Persévérez en Jésus. En Jésus, je porte du fruit. Sans Jésus, je suis sans vie éternelle. Et pour terminer ce matin, la conclusion, disciple de Jésus. Tout ce qu'a fait Jésus était pour la recherche de la gloire de son Père. C'est les derniers versets qu'on a dans notre passage. C'est la finalité de toute chose, le but ultime, la gloire de Dieu. Jésus a tout fait, et il fait encore tout aujourd'hui, pour son Père. Tout comme nous, à notre tour, nous devons le faire. Tout notre travail, tous les fruits que Jésus nous permet de porter, sont destinés à glorifier Dieu. Le Père reçoit la gloire de son Fils, et donc des disciples que le Fils a pu faire. Sommes-nous les disciples de Jésus ? Eh bien, nous devenons des disciples de Jésus lorsque nous portons du fruit. Pourquoi ? Parce que nous montrons alors combien, à quel point nous sommes attachés à Jésus. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous partagerez entre vous. L'amour est le fruit, il montre l'arbre, Jésus. Comment voir alors que nous sommes des disciples de Jésus? Deux choses sont obligatoires. Demeurer en Jésus et mettre en pratique la parole. Demeurer en moi et garder mes paroles. Et alors vous serez mes disciples. Verset 8. Mettre en pratique, pas seulement écouter, mais écouter, transformer. La prière, ce sera le fruit de nos vies de disciples. Puisque nous serons en accord avec Jésus, nous nourrissons constamment de lui, eh bien, la Bible nous le dit, et c'est une promesse, que nos prières seront exaucées. Et est-ce que c'est une prière limitée dans sa réponse? Eh bien non. Tout ce que nous demanderons sera accordé. Parce que tout simplement, cela sera en complète harmonie avec ce que Dieu veut pour nous. Quand nous prions par l'Esprit, l'Esprit nous met à cœur ce qu'il nous faut demander. Alors, nous sommes sûrs d'être exaucés. Romains 8, versets 26 et 27. Demeurer en Jésus a forcément pour application directe de mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. Et donc, de porter du fruit. Et pour terminer, s'il y a une seule chose que j'ai à retenir ce matin, de ce passage, en Jésus, je porte du fruit. Sans Jésus, je suis sans vie éternelle. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, on ne veut pas seulement dire que nous sommes chrétiens, mais on veut le montrer au monde entier, en portant du fruit à la gloire de Dieu. Permets-nous, mon Dieu, de ne pas avoir des cœurs endurcis ou des cœurs qui ne laissent pas ton Saint-Esprit agir. Au contraire, qu'à chaque instant, qu'à chaque souffle que nous respirons, tu puisses transformer ce que nous sommes toujours plus à ta gloire. Que nous puissions te ressembler, que les gens puissent te voir en nous. Et merci Père pour cela. Je te prie pour chacun d'entre nous présents ce matin, que nous puissions faire le point, apprendre à guérir et porter encore plus de fruits pour toi mon Dieu. Et merci parce que quand tu nous fais passer par des épreuves, c'est pour un but plus grand encore derrière. Porter plus de fruits, mais plus de fruits pour toi mon Dieu. Que ton nom soit loué, sois exalté, qu'à toi soit toute la gloire. Au siècle des siècles. Amen.